Variation en noir. Roman noir sur Radio PFM. Et littérature policière au pluriel. Variation en noir dans Variation le dernier vendredi du mois. Guy Lepolarski au micro, vous écoutez Radio PFM et vous avez rendez-vous avec les littératures policières. Variation en noir, c'est une émission réalisée en collaboration avec 813, l'association des amis des littératures policières, et en particulier avec un membre éminent de cette association, Hervé Delouche. Hervé qui est avec nous au téléphone depuis la capitale. Bonjour Hervé. Voilà, merci d'être fidèle à notre rendez-vous, Hervé. Au sommaire, ce mois-ci, du Gallmeister et encore du Gallmeister. Cet éditeur nous est cher, Hervé. Et étonnamment, pour cette saison 2021-2022 de Variation en noir, nous n'avons pas encore évoqué un de ses titres de l'année. Et donc, cette absence sera compensée aujourd'hui, puisque, comme je vous le disais, nous allons vous proposer du Gallmeister et encore du Gallmeister. Ce n'est pas rien de citer l'éditeur avant les auteurs dont nous allons parler, mais il n'était pas simple de choisir dans les dernières publications du catalogue Gallmeister, vraiment très riche pour l'amateur de noir. Nous avons néanmoins retenu Chris Offutt pour Les gens des collines et dans la collection de poche Gallmeister en Totem, 8 crimes parfaits de Peter Swanson et À bras raccourcis de Mark Haskell Smith. Un petit mot, Hervé, pour commencer, sur les éditions Gallmeister, créées en 2006 autour d'un genre littéraire peu connu à l'époque en France, le nature writing. Un éditeur qui s'est mis progressivement à explorer aussi les contrées du noir, et cela dès le début des années 2010, et notamment en publiant un auteur devenu très important, Benjamin Whitmer. Gallmeister a aussi créé une collection néo-noir en 2015. Bon, c'est un éditeur attaché aux littératures des États-Unis, mais qui s'est ouvert aussi très récemment à d'autres pays. En ce qui nous concerne, Hervé, nous allons rester aux États-Unis, entre le Kentucky de Offutt, le Boston de Swanson et le Los Angeles, où il n'y a pas que des anges, de Mark Haskell Smith. Voilà, Hervé, oui, nous pouvons signaler aussi, Hervé, qu'il y a quelques années, nous avons reçu un 1er mai au Salon du Livre d'Expression Populaire et de Critique Sociale d'Arras, Olivier Gallmeister. Olivier ou Oliver ?
Oliver.
Oliver, voilà, c'est ça. Oliver Gallmeister avec François Guérif. Et cette émission doit se retrouver assez facilement sur le site, dans les archives, sur le site de Radio PFM. Un éditeur vraiment important, Hervé.
Intéressant d'ailleurs, puisque, alors qu'on ne le savait pas à cette époque-là, depuis François Guérif, qui avait fondé la prestigieuse collection Rivage Noir, une fois ayant quitté Rivage, a rejoint... on dira comme conseiller éditorial l'édition Gallmeister, justement. Si tu me permets, je reviendrai bien sur une ou deux petites choses, quand même, sur la maison elle-même.
Oui.
Cette maison qui nous a rendu familiers de son logo, qui est une patte de loup, voilà, ce qui allait évidemment avec le nature writing, mais cette maison... quand elle s'est créée en 2006, c'est intéressant parce que ça a créé il y avait une grande perplexité dans le milieu éditorial parce que on considérait que le territoire de l'Amérique du Nord était déjà labouré de ci, de là, partout, voilà. Or, en partant du nature writing d'auteurs, comme Le gang de la clé à molette d'Edouard Abbey, la première incursion avec les romans noirs, c'était William Tapley, qui a fait, il y a eu trois romans, Et puis il y a eu aussi, sur le côté un peu western, Larry McMurtry et son Lonesome Dove.
Ouais.
Le credo de la maison, c'était, contenait ça notamment, c'était détective privé de la côte ouest ou guide de pêche de la côte est, habitant de Brooklyn ou cow-boy mélancolique, comme par exemple Walt Longmire de Craig Johnson, au fait, sont autant de représentations d'une Amérique plurielle. Et ce qui est intéressant, c'est que en une quinzaine d'années, Gallmeister a exploré toutes les facettes de la beauté d'un immense continent, disons, mais aussi l'humanité qui l'habite, explorer les failles du rêve américain. Et en plus, le pari a été extrêmement réussi, puisqu'après, pour faire vite le féminin étranger à Second Island de David Vann, il y a eu l'énorme succès d'un livre qui n'avait pas été pris ailleurs, je crois, My Absolute Darling, le premier roman de Gabriel Talent, qui a vendu entre 150 et 200 000 exemplaires quand même, et Betty de Tiffany McDaniel, qui a eu le prix roman de la FNAC, qui est un best-seller maintenant, enfin voilà, donc c'était la preuve qu'il y avait toujours à faire à partir du moment où il y avait une espèce de fil à plomb du côté du roman d'Amérique du Nord, voilà. Et comme tu le disais très bien, il y a 15 ans après, eh bien, la maison a décidé de s'ouvrir à la littérature d'autres pays, l'Allemagne, la Norvège, l'Italie.
L'Italie, oui.
Signaler, par exemple, Pier Giorgio Tullixi, L'île des âmes, qui est un thriller qui se passe en Sardaigne, je crois, et qui est en lice pour le trophée 813 du roman étranger.
Ah,
voilà, voilà.
D'accord. Bon, bah, très bien. Donc voilà, impossible de ne pas évoquer un moment ou un autre dans Variation en noir, Gallmeister. Christophe, Hervé, justement, donc le roman de Christophe Hutt, Les gens des collines, hein, qui vient de sortir, et comme l'écriture, l'œuvre de Christophe Hutt, on peut considérer qu'elle est emblématique un peu de ce projet éditorial qui cherche à faire des liens entre le nature writing et le noir, hein, parce que là on est plongé dans les Appalaches, hein, dans un monde, dans une nature encore très présente, très sauvage, et puis s'y mêle une histoire criminelle.
Ben, complètement, et puis ça fait aussi le lien, tu as parlé aussi de un pan important de la maison Gallmeister, c'est aussi cette collection de poches Totem, qui mêle à la fois évidemment le passage en poche de romans contemporains que publie la maison, et aussi la réédition et parfois la retraduction, ou en tout cas la révision de classiques, de références des romanciers d'Amérique, hein, du Nord, voilà, c'est comme Edgar Poe, comme Fenimore Cooper, comme Stephen Crane, comme...
Il y a du taureau, je pense, oui, c'est ça.
Eh bien oui, bien sûr, mais alors à côté de ça, en Totem, eh bien, il y a eu aussi la reparution de l'œuvre de James Cromley, l'intégrale de Ross MacDonald, qui pour les Américains avait, à côté de Dashiell Hammett et Raymond Chandler, est le troisième important de cette trilogie des références du noir, disons. Et Christophe Hutt, ça a commencé comme ça, parce que Christophe Hutt, on l'avait découvert, enfin moi, je l'avais découvert dans la superbe collection La Noire de Patrick Reynal à la fin des années 90. Il y avait eu Kentucky Strike, et puis il y avait eu Le Bon Frère.
Ouais.
Et disons que... 20 ans après, à peu près, hein, 18-20 ans après, Gallmeister a fait réviser ou retraduire ces deux textes. Christophe Hutt, on l'a découvert, il est venu ça a recommencé les traductions chez Gallmeister en 2018. Dans la foulée, Christophe Hutt est venu en France au festival du Goéland Masqué en Bretagne. Et ça a été l'annonce d'une nouveauté, parce qu'il y avait eu un silence d'à peu près 20 ans.
Oui, c'est ça, oui.
Et la sortie où Christophe Hutt avait travaillé pour des, pour des séries comme True Blood, comme Tremé, etc. Et ça a été la sortie de Nuit Appalaches, qui a eu le prix Mystère de la critique en 2020. Et puis, il y a ces gens des collines que tu as annoncé
qui vient de sortir,
de paraître. Mmh. Et ce qui fait très plaisir, c'est que Chris Hufut a l'air d'être à fond dans l'écriture, puisque, si j'ai bien compris, Les gens des collines est le premier d'une trilogie qui mettent en scène son personnage dont je pense nous allons parler.
Alors, il y a deux personnages. Enfin, il y a plusieurs, oui, personnages, mais donc on suit une shérif, une femme shérif, et son frère qui, lui, voilà, est un militaire, détective pour l'armée, hein, bon, un ancien parachutiste qui a bifurqué et qui a entrepris une carrière dans la police militaire, quoi, et qui, voilà, à l'occasion d'un retour au pays pour des raisons qu'on laisse le lecteur découvrir, va accompagner sa sœur dans une enquête, puisqu'une femme est retrouvée dans le fin fond d'une vallée sauvage, hein, donc du Kentucky, des Appalaches, une vallée où l'on trouve du ginseng, sauf que les amateurs de ginseng parfois trouvent autre chose que cette plante miraculeuse. Et donc, oui, alors on va retrouver ces deux personnages, tu dis, Hervé, dans une suite.
Ben, en tout cas, on va retrouver Mike Hardin, je crois, c'est-à-dire Mike Hardin, je dis deux mots de plus dessus, parce que on a eu à une époque, c'est des affaires générationnelles, on a eu des romans qui étaient inspirés par des vétérans du Vietnam, enfin, qui étaient en scène de retour, et là, Mike Hardin, lui, c'est un vétéran de guerre plus proche, puisqu'il a... Il a servi et vu nombre d'horreurs de la guerre en Afghanistan, puis en Irak. Et puis, comme tu l'as dit, il est devenu enquêteur à la division des enquêtes criminelles, le CID, je crois.
Oui, c'est ça.
Et où il a notamment travaillé en Syrie, puis en Allemagne. Il revient en permission. C'est aussi ça la grande force de ce roman. Tous les romans de Chris Hufut se passent au Kentucky, dont il est originaire. Et y a à la fois, c'est un endroit que Mike Hardin, comme je pense Chris Hufut d'ailleurs, a fui dès qu'il a pu, et en même temps, il y a comme une sorte d'aimant, c'est-à-dire qu'il y est, à nouveau attiré. C'est un territoire bien particulier.
Oui, difficile, hein, si, pour parler du territoire, de se dire qu'on est dans un pays, entre guillemets, civilisé, hein, dans ce fin fond du Kentucky, où chacun vit, en quelque sorte, selon ses propres règles, ses propres lois, et sans aucune peur du gendarme, en l'occurrence du shérif.
Les gens ne sont pas d'un bloc, bien évidemment pas. Ils peuvent être taiseux, ça, ils le sont tous. Ils sont rudes, ils sont abîmés surtout. Ils sont méfiants quand on t'accueille, ou bien la carabine est pointée, ou alors il y a une main qui se promène un peu derrière à l'arrière du pantalon. Parce qu'elle, tout bêtement, elle, ou derrière la jambe, parce qu'elle dissimule à peine un flingue. Hein,
On est en plein dans cette Amérique dont on parle en ce moment, hein, celle des armes,
est aussi en plein dans l'actualité. Par ailleurs, Chris Hufut est un grand pourfendeur de la culture des armes aux États-Unis. Il a toujours absolument détesté cela. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces romans, bien évidemment, parlent très bien et de la nature et des hommes, de leur beauté, de leur tragédie, de leur... Et il y a aussi une chose, c'est-à-dire que c'est des romans... sur le Kentucky, sur la, j'ai dit sur le, la, comment dire, la, le, c'est du Nature Writing, oui, et c'est aussi particulièrement une exploration de cet état qui est à part, puisque c'est un état qui est plutôt, si vous regardez une carte, qui est plutôt à l'est, mais qui n'est ni un état du nord, comme ces états qui sont en dessous des grands lacs, ni, et qui n'a pas non plus fait partie de ce Deep South ségrégationniste, disons. C'est un état qui a été un état minier, mais qui est un état pauvre, qui est un des états pauvres de l'Amérique du Nord. Et les gens dont parle Chris Offutt avec beaucoup de respect, mais aussi beaucoup de lucidité, il n'y a pas d'angélisme hein, dans tout ça, et comment notre soldat de retour au pays a toutes les raisons de s'en apercevoir. Ce ne sont pas des rednecks, des bas du front, etc. C'est une, je sais que Chris Offutt aime à dire que c'est plutôt des travailleurs, mais des travailleurs, notamment ruraux, mais pas uniquement, des travailleurs qui n'ont pour la plupart plus de travail.
Oui, oui. Et alors il y a aussi, moi dans ce roman, ce que j'apprécie, c'est ben, le personnage du shérif, donc la sœur hein, de oui. Linda Hardin, qui est shérif hein, dans ce petit coin là, du Kentucky. Et je trouve que ben, tout le monde ne fait pas confiance, lui fait pas confiance simplement parce qu'elle est une femme. Et Chris Offutt, je trouve, aborde cette question hein, de la place des femmes dans la société de manière subtile. Un petit extrait. Linda Hardin a un entretien avec un des responsables politiques du secteur, et donc Chris Offutt écrit: Linda attendit, sachant que Knox allait combler le silence. En moyenne, les hommes tendaient à interrompre une femme au bout de 8 secondes, et si une femme ne parlait pas, la plupart des hommes ne tenaient pas 4 secondes. En croire, conclut Chris Offutt, les sociologues financés hein, par les fonds publics et voilà, et équipés de chronomètres. Et donc ce personnage, je trouve qu'il est vraiment très intéressant aussi, Hervé, Linda.
Il est très intéressant. Tous les personnages de femmes, y compris sa femme enceinte que oui. On n'en dira pas plus, Peggy, que Mike Hardin revient voir en permission, les personnages de femmes sont des personnages importants, de même que la chef de famille, un peu d'une tribu à laquelle dans le genre de même qu'il y a les tough guys, il y a les tough women à qui Mike Hardin rend visite. C'est voilà, qui est une sorte de Mad Alton. C'est vraiment des personnages forts, puissants. Et Chris Offutt, c'est en dehors d'une vraie beauté du texte. On aurait envie d'en lire des passages. Aussi un souci, ça va avec, mais qui n'est pas du tout de l'ordre du discours, mais la nature, elle est tellement partie prenante de la vie de ces personnes, du roman lui-même, que il y a aussi ce constat des crimes que le profit capitaliste industriel commet contre le milieu naturel, contre l'environnement. Par exemple, il y a cette réplique à un moment, on est à Morehead ou dans un petit bled du Kentucky où se passe l'histoire, et il y a ce passage. C'était une jolie rue. Elle finirait par se remettre du meurtre, mais pas du déboisement de la colline. Et voilà, le roman, il foisonne de toutes ces questions-là, et en même temps, il y a une citation de James Hillary Mulligan qui ouvre le livre, qui dit « Le clair de lune est plus doux au Kentucky, les jours d'été sont plus riches au Kentucky, l'amitié y est plus vivace, les flammes de l'amour plus tenaces, mais le mal est toujours pire au Kentucky. » Et voilà, et comme le dit un personnage, y a une réplique, un bel endroit avec une histoire brutale, et l'autre répond, il n'y a pas une colline ici qui peut pas en dire autant.
Radio PFM, vous écoutez Variation en noir, Little Red Rooster, une reprise de Willie Dixon par Arnaud. Voilà, c'est l'occasion de rendre hommage à Arnaud qui nous a malheureusement quittés le 23 avril dernier. Arnaud qui s'est inspiré aussi des musiques populaires américaines et leur a régulièrement rendu hommage. Donc après Chris O'Fut, Légende des collines, vous l'aurez compris, un roman que nous, dont nous vous conseillons particulièrement la lecture, nous avons eu envie aussi d'évoquer deux romans parus dans la collection Totem, donc la collection de poche des éditions Gallmeister. Alors effectivement, Hervé, tu l'as signalé, Chris O'Fut, on trouve aussi ses premiers romans hein, chez Totem. Je voulais signaler, parce que j'y pensais quand tu évoquais la Noire, hein, qui a la collection La Noire chez Gallimard, créée par Patrick Reynal, où donc a d'abord été publié Chris O'Fut. Moi, on m'avait fait découvrir aussi Larry Brown, qui lui-même a été réédité par Gallmeister en Totem, hein, un auteur que l'on ne peut que conseiller, Hervé, Larry Brown.
Oh, c'est un auteur qu'on aime aussi énormément, que Gallmeister a effectivement repris. Voilà, il faut lire Sale Boulot, il faut lire Faye, il faut... Enfin bon, c'est Larry Brown, c'est comme Chris O'Fut, comme... ça fait partie de ces auteurs, comme Harry Cruz aussi, qui ont déplacé le cadre urbain du roman noir pour s'installer dans des bleds paumés, des bleds miteux, du côté des oubliés de l'Amérique. C'est voilà. C'est des grands auteurs.
Voilà. Alors bon, quelques pistes de lecture, hein, seront plus rapides, Hervé. Donc là, Peter Swanson, c'est toi qui me l'as fait découvrir. 8 crimes parfaits. Donc, c'est un libraire spécial. Donc là, on est à Boston. Hein, là, on est en milieu urbain. Un libraire spécialisé dans le roman policier, un libraire veuf qui, au début de sa carrière de libraire, avait établi une liste de huit romans pour 8 crimes parfaits. Et voilà que cette liste lui revient un petit peu comme un boomerang, Hervé.
Eh ben oui, parce que déjà, avoir choisir comme héros un libraire de polar, c'est quand même particulièrement plaisant. Sans critiquer la chose, ça change un peu de ces romans qui mettent forcément en scène des experts en balistique criminelle, tout ce qu'on veut, machin, bidule, ou tout bêtement des flics déprimés, enfin voilà. Ce qui est intéressant avec Peter Swanson, c'est que avec ce roman-là, il crée une intrigue criminelle qui va revisiter des romans phares de la littérature policière, parce qu'en fait, ce libraire spécialisé, il reçoit la visite d'un agent du FBI, si je me souviens bien, qui est confronté à des meurtres qui semblent sortis dont la description ressemble à celle de romans. Il y a ABC contre Poirot d'Agatha Christie, et Assurance sur la mort de James Cain. Ouais. Et puis,
L'inconnu du Nord Express de Patricia Smith, on ne va pas tous les reprendre. Hein, mais...
Et puis des livres un peu moins connus, comme Le bouillon rédempteur de John D. MacDonald, auteur qui a fait les bonheurs de la série noire. C'est-à-dire qu'on a quand même un vrai roman d'enquête policière, et en même temps, c'est brillant, c'est intelligent, il y a une dose d'humour.
C'est vraiment très... Voilà, on n'est pas dans le roman d'Agatha Christie. Hein, au-delà, même s'il y est fait référence. Non, c'est vraiment plein de subtilités, puis plein de rebondissements, on peut le dire. Hein.
Tout à fait plein de rebondissements. On l'avait découvert, Peter Swanson, il avait fait un premier livre... chez Calman Levy, je crois, enfin, qui avait été traduit chez Calman Levy, ça s'appelait La fille au cœur mécanique. C'était marrant parce que le titre original, c'était The Girl with a Clock for a Heart. Et effectivement, il y a de l'horlogerie clock dans ces romans. Il y a une sorte de mécanique implacable et qui est portée de façon assez éblouissante. Ça a un côté assez Hitchcockien. C'est vraiment bien.
On en parlait tout à l'heure. Et par exemple, c'est un auteur qui est publié sous la direction de François Guérif. Et l'éditeur annonce donc un grand format là qui sort ce mois-ci et présenté comme le polar de l'été. Ça s'appelle Chaque serment que tu brises, donc là c'est en grand format, et donc l'éditeur explique à propos de ce roman, se marier, !, surtout si un ancien amant n'est pas d'accord, voilà, hein, donc un roman entre terreur et romance, donc là on peut y aller vraiment franco avec Peter Swanson. Alors dans un autre genre, hein, complètement, Mark Haskell Smith, là c'est toi aussi hein, qui m'a... qui m'a amené à lire ce livre à bras raccourcis. Donc, là, on est dans un genre complètement différent. J'ai envie de dire, c'est de la caricature de caricature. Pas le temps de souffler non plus. Hein. Bon, ça m'a fait penser à des auteurs comme Ian Levison, Duane Zwierzynski, dont on a déjà parlé ici, Westlake, hein, de Donald Westlake.
Et JB. Elmore Leonard, en tout cas, le Elmore Leonard le film auquel qui a été une adaptation, qui est Jackie Brown de Tarantino. Enfin, il y a un côté comme ça. D'ailleurs, c'est rigolo parce que la première phrase du livre, c'est putain trop cool, mec. Et effectivement, c'est un livre qui est comme ça dans une espèce de rythme plein de drôlerie, de rythme, de prenons un néologisme, de coulitude, enfin voilà, et en même temps, alors qu'il y a des choses, évidemment c'est dramatique, ne serait-ce que la scène de départ où c'est Bob qui s'ennuie un peu à l'hôpital de Los Angeles, et puis son collègue lui apporte, un bras qui a quand même été sectionné, ce qui n'est pas très amusant en soi. Et en fait, ce bras va faire l'objet de tas de convoitises, de rebondissements. Ce bras tatoué, il va être aussi l'objet de fantasmes.
Oui, parce qu'il faut le dire, Hervé, hein, il est orné, ce bras, d'un tatouage particulièrement érotique, hein, oui. Avec la représentation d'une jeune femme, dont Bob, là. Hein, donc, cette personne qui travaille, hein, c'est voilà, une sorte de morgue, en fin de compte, hein, qui travaille dans cette institution, il va tomber amoureux.
Complètement. Il faut dire aussi que ce bras, il a été retrouvé sur le sol d'un garage parce que il a été sectionné par la fermeture automatique de la porte, alors que le Amado, je crois que c'est ça, le gars qui s'occupait était en train de maquiller un meurtre en suicide, et hop, malheureusement, la porte s'est refermée un peu brusquement, on peut dire, et voilà, et ça va être c'est le point de départ de rebondissements très très désopilants avec de la mafia mexicaine, un inspecteur du LA Police Department, l'employé Bob dont on a parlé, etc., etc.
Oui, des personnages en couleur, hein, notamment la compagne de Bob, hein, mais là, bon, on vous laisse découvrir son métier. Hein, d'ailleurs, elle en changera de métier, hein, mais vraiment, c'est étonnant.
Oui, oui.
Hervé, donc...
De toute manière, oui. C'est un autre Los Angeles que celui de Raymond Chandler, de Michael Connelly ou de James Ellroy, mais... Ça vaut le coup d'en parcourir les artères. Oui.
Alors donc, nous le disions, hein, Gallmeister, en fin de compte, on se trompe rarement, hein, quand on pioche chez un libraire, dans une bibliothèque, un livre de cet éditeur. En totem, on peut signaler l'apparition, t'évoquais, Larry McMurtry, un auteur important, avec Lonesome Dove, là, le western des westerns, on peut dire ça comme ça. Et donc, Gallmeister publie l'épisode final, en fin de compte, hein, de Lonesome Dove, les
oui,
rues de...
Pour qui n'a pas encore découvert Lonesome Dove, c'est...
Il faut absolument. Ouais, ça, c'est
très hautement recommandé. C'est un bonheur. Par exemple, pour emmener Lonesome Dove pour l'été, c'est bien.
Oui, voilà. Hein, donc ça, c'est un incontournable. Et puis, il y a un grand format qui sort aussi. Oui. De Larry McMurtry à Adieu Chienne. Mais bon, pour terminer, là, une pioche aussi, vraiment, moi, je suis tombé dessus. Donc, celui-là est sorti fin 2021. Un auteur que j'ai découvert, moi, j'ai été vraiment complètement emballé. Lance Weller, avec un roman qui s'appelle Le cercueil de Job. Donc là, ça se passe pendant la guerre de sécession. Et on suit des esclaves qui sont en fuite, hein, qui espèrent gagner c'est le Nord et donc leur liberté. Et ça, c'est aussi vraiment un auteur, je sais que tu l'as rencontré, Hervé, très intéressant et très important dans le catalogue Almeister.
Oh ben, je suis complètement d'accord avec toi. Depuis Wilderness, moi je l'avais rencontré au Goéland Masqué justement, c'était à l'occasion de la sortie du roman précédent, Les Marches de l'Amérique. Et là, avec le cercueil de Job, ça confirme que c'est le grand écrivain de la guerre de sécession, d'événements. Très dramatique et très humain qui sont liés.
Une sacrée écriture, puis une construction aussi du roman.
C'est vraiment magnifique, les livres de Lance Weller. C'est un style et des histoires, parce que c'est toujours ça qui est aussi peut-être un peu la marque de la maison dont on parle, c'est-à-dire de ne pas oublier d'aimer des auteurs qui racontent des histoires et qui en même temps le font avec un brio de l'écriture, à chaque fois différent. Mais Lance Weller, c'est superbe, ouais.
Voilà, donc il y a de quoi faire et surtout de quoi lire aux éditions Gallmeister. Voilà, c'était Variation en noir dans Variation, le dernier vendredi du mois, une émission de Radio PFM, réalisée en collaboration avec 813, l'association des amis des littératures policières, en particulier avec Hervé Delouche. Hervé, au revoir.
Eh bien, au revoir Guy, au revoir Bernard, et puis à toutes et tous, voilà, et à bientôt.
À bientôt, hein, pour une émission spéciale été, une émission un peu spéciale, on n'en dit pas plus pour le moment. Voilà, de très bonnes lectures. Oui, voilà, très bonnes lectures, en noir ou pas d'ailleurs, hein, toutes et à tous. Au revoir. It's not my business. Well, ain't making my business.